Philosophie éthique, Père Philippe, 2 novembre 1983, Saint-Joseph.
Nous allons continuer le cours d'éthique. Si vous vous rappelez bien ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est d'essayer d'abord de se poser le problème de la philosophie morale en comprenant que le problème de la philosophie morale est particulièrement difficile à notre époque à cause de la philosophie de Nietzsche. Alors, je ne vous demande pas de vous plonger dans la philosophie de Nietzsche actuellement, il faudra le faire un jour, c'est nécessaire, mais au début, il vaut mieux pas. C'est très séduisant. C'est très séduisant. Le fruit est beau à voir. Je ne dis pas qu'il est bon à manger, mais il est beau à voir. C'est très séduisant parce que Nietzsche reprend tout par le point de vue de la créativité. Au fond, ce qu'il voudrait, c'est de fonder une morale sur la créativité. Et au fond, on a toujours un peu ça dans le fond de nous-mêmes, si vous voulez, depuis la première tentation, qu'on puisse nous-mêmes, en quelque sorte, préciser le bien et le mal. Depuis Occam, le point de vue de la nature humaine disparaît, et par le fait même, la finalité disparaît. Si la finalité disparaît, c'est l'efficience qui devient première. Alors d'abord, c'est toujours intéressant d'essayer de voir comment se font les dégradations et comment se font aussi les montées. Quand la causalité finale, en gros, comprenez bien, c'est l'attraction du bien sur nous. Quand vous êtes attiré par le bien, il y a un petit quelque chose qui monte. Autre chose est l'attraction du bien, autre chose, la séduction du beau. Je reviendrai souvent là-dessus, parce que c'est très très important d'arriver à le discerner en nous. L'attraction du bien et la séduction du beau. Les deux peuvent aller ensemble de temps en temps. Saint Thomas n'hésite pas de dire dans son commentaire sur Saint Jean, je n'ai pas la référence, je ne crois pas que je l'ai inventé, un jour je la retrouverai, ce qui dit que normalement, l'homme est séduit par la beauté de la femme en vue du mariage. Oui, ça c'est beau, c'est le théologien qui dit ça. Hein. Et théologien mystique. Alors il dit qu'il y a séduction de la beauté en vue du mariage, c'est-à-dire en vue de l'amour. La séduction n'est pas le point de vue de l'amour. Le point de vue de l'amour, c'est d'être attiré. Et la causalité finale, elle commence à naître en nous par l'attraction du bien. Quand il n'y a plus l'attraction du bien, il peut demeurer la séduction du beau. La séduction du beau est beaucoup plus intellectuelle. C'est l'intelligence qui est séduite. C'est pas le cœur. Le cœur n'est pas séduit au sens fort. C'est l'intelligence. Et alors quand le cœur n'a plus cette attraction, alors il peut demeurer encore une séduction du beau. Et quand la séduction disparaît, il n'y a plus que l'efficience. Tu dois faire cela. Peu importe que ce soit bon, peu importe que ce soit bon, beau, c'est ton devoir. Hein? Alors on voit très bien la morale kantienne. Hein? Tu dois faire ça. C'est l'impératif catégorique. Et cet impératif catégorique, il s'impose. L'éducation que beaucoup ont reçue, elle était assez kantienne, il faut bien le dire. Hein? Remarquez, je comprends, de temps en temps, on est bien obligé, quand il n'y a plus beaucoup d'attraction, plus beaucoup de séduction, de se rabattre sur le devoir. Je crois qu'il faut mettre un peu ces trois aspects successifs, hein? On les verra. Le bien, le beau, le devoir. Je ne condamne pas du tout la morale du devoir. Mais je dis que la morale du devoir n'est pas première. Je ne condamne pas la séduction. C'est bon. Mais c'est pas premier. Ça devient dangereux quand la séduction est première. Qu'est-ce qui peut être premier? C'est le bien. C'est le bien qui nous attire. On peut se servir de la séduction pour être plus attiré. Et on peut se servir de la séduction et de l'attraction pour comprendre notre devoir. Mais ce qui est très dangereux, c'est quand le devoir est premier. Alors quand le devoir est premier, c'est très ennuyeux. Ça tient un certain temps, à force de poignée, si de fait on a une bonne volonté. Et quand la volonté est faible, ça ne va pas très loin. Tu dois faire cela. Bon, ça a tenu quand même un certain temps, la morale kantienne. Ça, c'est sûr, ça a duré un certain temps. Et alors, il y a eu Nietzsche qui a fait des boulets rouges sur la morale kantienne en disant « Non, tout ça, c'est faux, parce que cette morale kantienne repose sur la voix de Dieu en nous. » C'est imaginaire, puisque Dieu n'existe pas. Il faut donc retrouver une nouvelle morale. Qu'est-ce qui est premier en nous? C'est la créativité. Ce que nous faisons. Et à partir de là, Nietzsche aurait voulu recréer une nouvelle morale. Il l'a pas fait. Il ne faut pas dire que Nietzsche est immoral. C'est pas vrai. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez, d'analogue à ce que Épicure disait. C'est le plaisir qui est premier en morale. Alors il faudrait mettre en parallèle le plaisir d'Épicure et la créativité de Nietzsche. La créativité, ça nous plaît, si on est un peu créateur. C'est quand même très agréable de réaliser quelque chose qui vient de nous. Parce qu'on est mesure de toute chose, comme un peu dans le plaisir de Rupide. C'est ce plaisir d'Épicure. Le plaisir fait que l'homme est mesure de toute chose. Alors il y a un parallélisme entre les deux. L'un plus subjectif, l'autre plus du côté de l'efficacité. Il y a un petit parallélisme entre les deux qui serait intéressant à bien voir. Nous vivons, nous, après Nietzsche. On ne peut pas être nietzschéen. Ça aboutit à des choses effrayantes. On l'a dit, et je crois que c'est un peu vrai. Que Hitler s'était beaucoup inspiré de Nietzsche, du moins ceux qui conseillaient Hitler, parce que je ne crois pas que Hitler lisait beaucoup Nietzsche, mais ceux qui inspiraient Hitler, c'était inspiration. On dit aujourd'hui, il le récuse, mais on le dit, que la nouvelle droite s'inspire de Nietzsche. Quand on leur dit, ils disent non. Mais je crois quand même quelque chose de juste, c'est qu'il y a quelque chose d'une reprise nietzschéenne de vouloir retrouver une nouvelle morale à partir de la créativité, à partir de ce que l'homme réalise par lui-même et est capable de réaliser. Bon, peu importe, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une morale nietzschéenne est très dangereuse, parce que c'est une morale de la puissance, qui veut dominer. Il faut retrouver dans notre monde d'aujourd'hui, au plan philosophique, je ne parle pas au point de vue de la foi, il suffit qu'on croit pour immédiatement comprendre qu'il y a en nous une responsabilité morale. Donc la foi nous permet d'être immédiatement moral. Je sais très bien que certaines théologies d'aujourd'hui veulent supprimer cette connexion entre la foi et la morale. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est de la théologie, mais c'est simplement parce que, étant croyant, forcément, passons du point de vue philosophique au point de vue de la foi. Au point de vue de la foi, je crois qu'on peut dire qu'il y a immédiatement une éthique. Il y a une éthique dans l'Évangile. Il y a une éthique dans notre manière de regarder Dieu et les hommes. Mais je parle au point de vue philosophique. Après Nietzsche, il faut redécouvrir une nouvelle morale. Mais Heidegger le dit par rapport à la métaphysique. Heidegger le dit par rapport à penser l'être. Mais nous devons le dire par rapport à une anthropologie. Il faut redécouvrir une véritable morale. Redécouvrir une nouvelle morale à partir de Nietzsche exige de reprendre la source
par où nous avons le point de vue moral qui naît en nous, notre sens de notre responsabilité. Et le premier moment du sens de notre responsabilité revient à partir de l'amour du bien, d'un bien spirituel, c'est-à-dire d'une personne. C'est dans notre relation avec une personne humaine que nous pouvons saisir cette responsabilité morale. Et c'est à partir de cette responsabilité morale qu'on doit redécouvrir ce que représente le sens moral. Je vous disais la dernière fois que pour nous, je crois que nous devons le dire, pour nous, c'est à partir de l'amour d'amitié que nous devons essayer de comprendre comment nous pouvons établir dans une réflexion philosophique une éthique. Je crois bien chercher, ça m'intéresserait que vous puissiez poser d'autres sources, parce que ça me permettrait de les démolir, c'est toujours intéressant, de montrer que ce n'est pas vrai, et vous, ça vous aiderait à mieux comprendre qu'il n'y en a qu'une. Une seule source, il n'y a pas deux sources. Oui, vous pourriez dire, il y a une seconde source qui demeure toujours, les traditions religieuses. Dans la mesure où elles demeurent après Nietzsche, mais j'ai beaucoup de peine à croire que les traditions religieuses demeurent après Nietzsche. Ça fait des petits îlots encore dans la famille, dans certaines familles, mais ça ne dure pas très longtemps. Aujourd'hui, à partir de 14 ans, à partir même de 13 ans, au fond, l'enfant n'accepte plus les traditions familiales et religieuses. Il veut autre chose. Or, on ne peut pas établir une philosophie morale à 13 ans, ou avant 13 ans, à 12 ans. Les petits génies de philosophes à 12 ans, j'y crois pas beaucoup. Ça fait un petit printemps, et c'est très vite abîmé. De sorte qu'on commence à réfléchir philosophiquement quand on a 18, 20 ans, jusqu'à 45 ans. Normalement. Jusqu'à 45 ans, on doit être un philosophe. Si on est entré dans la communauté Saint-Jean. Donc, on doit être à 45 ans, on doit être un philosophe. Donc, on doit quand même avoir le point de vue de la réflexion. Or, à 18 ans, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, établir une éthique à partir des traditions familiales et religieuses. Ça me semble impossible. Parce que vous voyez tout de suite que ces traditions morales, ces traditions familiales et religieuses ne sont qu'une opinion. Parce qu'on voit à côté de nous d'autres qui n'ont plus du tout ça. Mais quand l'opinion est universelle, quand l'opinion est reçue par tout le monde, ça peut être un certain fondement. Mais quand l'opinion est battue en brèche, alors non. Quand à côté de nous, on voit d'autres familles qui, au fond, sont tout à fait en dehors de ce point de vue de ces traditions familiales et religieuses. Il faut donc trouver un autre fondement. Or, l'autre fondement me semble être l'expérience qu'un homme de 18, 19, 20 ans fait le plus facilement. La rencontre avec une personne humaine qu'il aime, avec une amitié qui commence à naître. Je dis elle commence à naître, parce que une amitié véritable, il faut du temps, vous savez, pour être sûr qu'elle est véritable. Parce qu'autrement, c'est des petits printemps. Mais une véritable amitié met du temps. Parce que justement, c'est très profond, ça va très loin. L'expérience de l'amour d'amitié me permet de me donner le sens de ma responsabilité à l'égard d'un autre. Parce que cet autre est mon bien, il m'aime. Je suis son bien et je l'aime. Il y a cette double relation qui s'établit, toujours dans l'amour d'amitié. Et à partir de là, je peux comprendre ce que représente l'éveil de l'activité morale. comment l'activité morale s'appuie toujours sur un amour spirituel. L'amour spirituel est au-delà de la morale. C'est très, très important de comprendre cela. Parce que ça fait comprendre le lien qui existe entre le point de vue moral et puis ce qu'on dira ensuite, dans la mesure où on aura le temps, de la mystique chrétienne. Vous voyez, s'il n'y avait pas ce fondement, il n'y aurait pas de continuité. Il y aurait une discontinuité. Et c'est ce qu'on dit de temps en temps. On dit la mystique, elle n'a rien à voir avec la morale. Pas du tout. Il y a le même fondement. La différence, ici je parle d'une mystique, mais même une mystique telle qu'elle pouvait exister en philosophie grecque, Plotin est un mystique, ça, c'est très vrai. Qu'est-ce que ça représente exactement, ça? C'est très difficile à bien saisir. Mais dans l'Inde, il y a une mystique aussi, il n'y a pas qu'une morale, il y a une mystique. Quelle différence y a-t-il entre le point de vue moral et le point de vue mystique? C'est que le point de vue moral implique qu'on regarde un bien humain. La mystique, c'est atteindre immédiatement un bien absolu. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. La mystique naît quand il y a expérience d'un bien absolu. Quand on a l'expérience d'un bien absolu, on peut s'engager totalement. Il y a un absolu. Alors on s'engage entièrement. Et c'est ça le propre de la mystique. Ça s'impose à nous d'une manière telle que ça prend toute notre vie. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'un bien humain, c'est-à-dire d'une personne humaine qu'on aime, c'est bien un certain absolu, mais ce n'est pas l'absolu tout court. Parce que nous savons très bien que nous pouvons aimer plusieurs personnes humaines. C'est bien évident, l'amitié n'est pas unique, ça c'est tout le grand problème. Vaut-il mieux aimer une seule personne ou en aimer plusieurs? Fameux problème grec, ça. Et c'est très intéressant comme problème. Si on se pose le problème, ça prouve justement que la personne humaine ne s'impose jamais comme un absolu. Tandis que vous ne pourrez pas vous poser, vaut-il mieux aimer un seul Dieu ou plusieurs dieux? Parce que dès que vous aimez un Dieu, vous verrez que vous ne pouvez pas en aimer plusieurs. Ça, c'est impossible. Parce que Dieu est unique. Et ne peut être qu'unique. C'est une véritable expérience de Dieu. Il ne peut être qu'unique. Et donc, il ne peut pas y avoir deux mystiques, vous voyez? C'est la faiblesse du reste de l'Inde, ça. Vous voyez, c'est qu'à l'intérieur de la mystique, on mettra un certain éclectisme. Ce qui fait que cette mystique ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une certaine relativité qui s'établit. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'amour d'amitié, on sait très bien que aimer quelqu'un n'est pas exclusif de l'amour de quelqu'un d'autre. Et même quelquefois, l'amour de quelqu'un d'autre permettra de mieux aimer, d'être plus lucide, d'être moins dans l'imaginatif, dans l'imagination, d'avoir quelque chose de plus lucide. Alors, il faut bien saisir que la continuité entre le point de vue moral et le point de vue mystique, c'est l'amour spirituel. Le fondement moral, c'est l'amour spirituel. L'éthique se fonde sur un amour spirituel. C'est pour ça que je vous disais, au moins l'année dernière, pour ceux qui assistaient au cours, les autres l'entendent maintenant, et essaieront de comprendre ce que ça veut dire, que cet amour spirituel s'impose à nous. On n'est pas libre de l'éclosion d'un amour spirituel. On n'est pas libre, ça s'impose à nous. C'est quelque chose qui s'impose à nous avec une très grande force. J'allais presque dire avec une violence, parce que c'est le bien qui nous attire. Alors ça s'impose à nous, on n'est pas libre. Or, la morale implique la liberté. C'est pour ça que l'amour spirituel fonde la morale. La morale, formellement, commence avec ce que nous appelons l'intention de vie. C'est quand le bien que nous aimons devient notre fin. Alors c'est ce passage très important, je n'ai pas le temps d'insister ici, on avait beaucoup insisté l'année dernière là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important pour nous au point de vue moral, et au point de vue éducation morale, vous voyez. Ce qui est très important, c'est de faire cette petite distinction entre amour spirituel. Quand je dis amour spirituel, vous comprenez bien, l'amour saisit tout l'homme.
Donc, dans l'amour spirituel, il y a des éléments imaginatifs. Dans l'amour spirituel, il y a des éléments passionnels. Il y a même des éléments instinctifs. C'est bien évident. L'amour spirituel se met très longtemps avant d'être tout à fait pur. Mais l'amour spirituel s'enracine dans l'homme. C'est l'homme concret qui aime. C'est l'homme qui est le bien de l'autre homme qui aime. Vous voyez ? Donc, cet amour spirituel s'enracine dans l'homme. Mais il y a quand même quelque chose de spirituel qui regarde le bien spirituel. Et le bien spirituel, c'est une personne. C'est lorsque, de fait, on aime une personne humaine. On peut aimer une personne humaine imaginativement. On l'a vu dans un halo magnifique, extraordinaire, une nuée qui l'enveloppait. On n'avait jamais vu quelqu'un aussi extraordinaire. Alors c'est très bien, ça peut se faire, ça. Et on peut l'aimer d'une façon passionnelle. Il a un regard, c'est extraordinaire. Alors on a été séduit par ça. Séduit. Vous voyez, donc il y a la passion qui peut s'éveiller là-dedans. Il y a aussi l'instinct, c'est bien évident. Alors tout ça est mêlé, mais il y a une émergence. Il y a une émergence d'un amour spirituel. Il y a quelque chose de spirituel qui fait qu'on atteint ce bien spirituel qui est une personne. Cet amour spirituel s'impose à moi. J'en prends conscience. Je l'accepte. Ça devient une intention. L'intention de vie fait que ce bien devient ma fin. Je tends. On tend vers une fin. On est attiré vers le bien. Mais comme c'est différent. On est attiré vers le bien. On est passif. On est attiré par le bien. Tandis qu'on tend vers une fin. L'intention de vie mobilise toutes mes forces. Toutes mes forces sont mobilisées vers ce bien qui devient ma fin. Ça devient ma fin. C'est mon bien et ça devient ma fin. C'est très très différent. L'élément intellectuel est beaucoup plus fort dans l'intention de vie que dans cet amour spirituel. L'amour spirituel est beaucoup plus, c'est affectif, au très très grand sens, d'une affectivité spirituelle, pas seulement une affectivité sensible, une affectivité spirituelle. Et je suis libre ici. Je suis libre d'accepter cette intention de vie. Tandis que cet amour spirituel s'impose. C'est pour ça que je dis que cet amour spirituel est le fondement de la morale. Et quand cet amour spirituel est vécu pour lui-même avec une très grande intensité, c'est le mystique. C'est ce qu'on appelle mystique, si vous voulez. C'est qu'on vit au plus intime de notre cœur dans ce point de vue de cet amour spirituel qui est notre vie. Alors, ça ne peut exister que lorsque cet amour spirituel se porte non plus sur une personne humaine, mais sur la personne qui est l'absolu, c'est-à-dire en fond Dieu. Alors, à ce moment-là, cet amour spirituel s'éclot pleinement, totalement. Nous dirons pour nous qu'il ne peut y avoir éclosion plénière de cet amour spirituel que s'il y a la grâce, que s'il y a la charité. Et alors, ce sera l'amour comme l'amour du Christ. Nous l'aimons directement, immédiatement. Il y aura aussi une intention de vie ensuite, parce que nous savons que ce lien avec le Christ demeure affectif d'une affectivité divine, pas seulement d'une affectivité spirituelle, et qu'il demande une unité toujours plus grande. Alors, on aura aussi une intention de vie qui viendra ensuite et qui impliquera une liberté. Cette intention de vie va impliquer ensuite un choix. Cette personne est non seulement ma fin, mais je la choisis. Je la choisis. Il y a quelque chose de très particulier. Et ici, de nouveau, on retrouve une liberté. Il y a deux grands moments de la liberté. Il y a un troisième moment de la liberté, lorsque je veux m'unir profondément à cette personne que j'aime. Je veux coopérer avec elle et je veux vraiment que toute ma vie soit dans l'exercice avec elle. Alors cet exercice va impliquer ce qu'on appelle l'hyperlume. Retenez au moins cela, pour ceux qui ont vu le cours l'année dernière, ça doit mettre pour eux un rappel simplement. L'amour spirituel, voyez ces trois grands moments. L'intention de vie, le choix littéral. Ces quatre grands moments.
Et il y a trois moments de liberté, très cru. La liberté se fonde sur l'amour. Cela exige de nous purifier beaucoup de toute la tradition de Descartes. Parce que Descartes ne dit jamais que la liberté se fonde sur l'amour. C'est la grande erreur de Descartes. Pour Descartes, la liberté, elle naît spontanément. Hein. Je ne sais pas comment, mais c'est un fait. Hein. Pour lui, il dit que ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est la liberté. C'est pas vrai. Ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est l'amour. Parce que l'amour est premier. Et la liberté naît à partir de l'amour. Quand il s'agit de la liberté morale, quand il s'agit de la liberté artistique, nous le verrons, elle naît de l'inspiration. Donc il y a deux sources d'amour, deux sources de liberté en nous. Une liberté morale, une liberté artistique. Et on confond tout le temps les deux au niveau psychologique. La psychologie ne peut pas faire le discernement entre liberté morale et liberté artistique. Et c'est la grande confusion de Sartre. Pas l'oublier, ça. C'est très très important, parce qu'aujourd'hui, la liberté, c'est tout le temps. Alors, il s'agit de retrouver la source de la vraie liberté. Au point de vue moral, nous sommes libres dans la mesure où nous aimons. Et nous sommes libres pour aimer plus. L'amour n'est pas ordonné à la liberté. Il y a des gens qui sont libres, ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient. Ils sont libres. Ça ne sert à quoi ? Ils ne savent pas aimer. Ça ne sert à rien du tout. On est libre pour aimer. Et l'amour est source de liberté. Plus on aime, plus on est libre. Et l'artiste, plus il est inspiré, plus il est libre. Vous voyez que la liberté vient de l'intérieur. De l'amour et de l'inspiration. Mais il y a deux sources de liberté. Il y a deux libertés tout à fait différentes. La liberté de l'artiste est tout à fait différente. Songez à la fable de La Fontaine, puisque La Fontaine est très proche de certains aspects de la philosophie, nous savons bien. Songez à la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Alors vous comprendrez ce que c'est que la liberté de l'artiste. C'est le loup. Tous les vrais artistes sont des loups. Le chien, vous savez bien, il mange bien le chien, tandis que le loup, il a opté pour la liberté. Et le chien, il accepte d'avoir un petit collier, n'est-ce pas ? C'est pas grand-chose à côté du potage qu'il a à côté de lui, non ? Mais c'est pas grand-chose, mais c'est qu'il a, il a perdu sa liberté. Alors, la liberté du loup, c'est la liberté de l'artiste. Ce n'est pas du tout la liberté morale. Ce n'est pas des loups au point de vue moral. Parce que alors c'est très dangereux. Au point de vue moral, il faut au contraire être des agneaux. C'est, vous avez différent. C'est la liberté à l'intérieur de l'amour. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est très important pour nous de voir les choses. Et vous voyez, c'est très intéressant et très important de voir qu'au niveau psychologique, on ne peut pas faire la distinction. C'est là qu'on voit que le point de vue psychologique, au fond, reste uniquement le point de vue psychologique, comprenez bien. Un prix ne va pas jusqu'au bout. Parce que ne pas discerner liberté morale et liberté artistique, c'est très gros au point de vue philosophique. Ce sont des grosses confusions. Et c'est là qu'on voit comment Sartre reste une philosophie qui est au fond grossière. Vous voyez ? Parce que de fait, il ne fait pas la distinction entre liberté artistique et liberté morale. Donc, je reviens ici à mes moutons, parce que c'est à mes brebis, tu vois. Alors, je reviens ici. Alors, je dis comment il faut bien saisir ces quatre moments, et comprendre que l'imaginaire, la phobiologie, mais croyez bien, j'aime beaucoup l'imagination. L'imagination a des excroissances. Hein. Et quand je parle de l'imaginaire, je parle beaucoup plus des excroissances. Il y a des excroissances étonnantes de l'imaginaire. Pensez à ces plantes de serre, où il y a beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur. Alors ça pousse en une nuit, façon extraordinaire. Vous voyez, c'est dans les forêts équatoriales, on voit des choses comme ça. Vous voyez, au Cameroun, je veux dire, on voit des choses extraordinaires. En une nuit, ça pousse comme façon extraordinaire. L'imaginaire. L'imagination, c'est excellent, mais l'imaginaire, donc de l'imagination, l'imaginaire peut venir encombrer notre intelligence et empêcher ce passage de l'amour spirituel à l'intention de vie. Quand ce passage ne se fait pas à cause de l'imaginaire, on tombe dans les velléités. L'amour spirituel se corrompt dans la velléité. Celui qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, hein, et puis il ne fait rien du tout. Dès que vous lui demandez un service, rien. Le royaume de Dieu n'est pas à celui qui dit Seigneur, Seigneur. Ce qui est une velléité. Alors, vous voyez, comprenez bien le proverbe faux quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En réalité, il faudrait dire l'enfer est pavé de bonnes velléités, ou plus exactement, de belles velléités. Parce que les velléités ne sont jamais bonnes, elles sont toujours belles, elles sont séduisantes. Ça séduit de façon prodigieuse. Alors, corruption d'amour spirituel par l'imaginaire, et vous tombez dans la velléité. Ça, c'est la première chose que nous devons saisir. Immédiatement, quand l'imaginaire est trop fort. L'imaginaire peut venir empêcher le passage de l'intention de vie au choix et faire que je suis incapable, ayant des intentions très fortes, de choisir les moyens. À cause de l'imaginaire, je choisirai les moyens qui me séduisent le plus, qui me font le plus plaisir. Hein, les moyens qui me séduisent le plus et qui me font le plus plaisir. Alors à la place vraiment de choisir les moyens qui sont en connaturalité avec ma fin, je choisis des moyens qui sont ceux les plus proches de mon plaisir, qui me flattent. Et je me fais croire à moi-même que ces moyens sont merveilleux. Que c'est les seuls. Vous voyez, là, ce serait tout Épicure. Je crois qu'Épicure, c'est surtout le choix des moyens. Au fond, le choix des moyens d'une manière trop esthétique. Vous savez, ça peut arriver. Ça se trouve. Corruption du moral par l'esthétique. C'est imaginaire. Et ça se voit du côté des moyens. Alors, on choisit les moyens qui sont le plus en notre connaturalité, qui nous flattent le plus, qui nous plaisent le plus, qui sont le plus des moyens qui nous épanouissent, quoi, du moins qu'on dit qu'ils nous épanouissent. Puis troisième invasion de l'imaginaire entre le passage du choix et l'impérium, l'exercice, l'application. Ça vient constamment. Vous commencez un cours avec une bonne énergie, bonne intention. Je suis réveillé. Bon, une intention, on va y aller. Un choix, j'ai choisi, il doit être là. Puis au bout de 10 minutes, l'application devient impossible. Pourquoi ? Il y a eu un petit rêve qui m'a pris. Je me suis laissé emporter par un... Je ne suis plus appliqué. La volonté a cédé à l'imaginaire. Il n'y a plus d'application. Le manque d'application qui arrive constamment, on est pris par un rêve éveillé, on se laisse prendre par ça. Ça provient de l'imaginaire. L'imaginaire nous empêche d'aller jusqu'à l'application. Alors on ne fait plus attention. On est très loin, très loin. Très loin de ce qu'on devrait faire. On a une peine énorme de savoir, puis on se réveille, tiens, qu'est-ce qu'il dit, où est-ce qu'on en est. Vous voyez, alors, vous avez fait le planeur, vous avez plané par l'imagination, jusque-là ça allait à peu près, puis tout d'un coup,
l'application. Ça demande beaucoup d'attention, l'application. Ça demande beaucoup de volonté. Alors, l'imaginaire peut très bien arrêter cette application. Je prends cet exemple-là, parce que ça, c'est l'exemple classique, on voit très bien. On voit d'autres exemples où l'imaginaire empêche d'aller jusqu'au bout de l'application et de l'impérium. C'est lorsque, ça chez les intellectuels, ceux qui réfléchissent beaucoup, alors ils ont beaucoup de peine, vraiment, à passer à l'exécution. C'est tellement complexe, tellement difficile. Ah oui, j'ai encore une information à faire, je ne peux pas me décider. Vous voyez, alors à la place de dire tout simplement les choses, on montre tous les possibles, hein, l'invasion des possibles. Je demeure dans les possibles. C'est là où c'est très intéressant de voir que demeurer dans les possibles. J'ai choisi, mais mon choix n'est pas parfait. Je ne veux pas passer à l'imperium, je ne veux pas passer à l'application, parce qu'il y a d'autres possibles. Alors, il y a des possibles intellectuels, il y a des possibles du côté pratique, il y a des possibles esthétiques, il y a des possibles imaginatifs, et ainsi de suite. Je suis encombré de ces possibles, et je ne passe pas à l'application. Ça arrive très souvent. C'est même peut-être là le défaut le plus grand des intellectuels. Ils ont de la peine à appliquer directement. Ils ont de la peine de rester éveillés dans l'ordre de l'application. Ils ont été pris par autre chose. Ce qu'on appelle les distractions. J'étais distrait. J'étais distrait. Ça arrive quand on vous demande de faire quelque chose. J'ai été distrait. Il y a des répercussions des distractions. C'est que l'imperium n'était pas là. Vous voyez ? Alors, l'impérium n'étant pas là, il y a les répercussions. Je pourrais prendre des tas d'exemples de vie commune, hein, où ça s'aperçoit constamment. La distraction a d'immenses conséquences comme ça, parce qu'on n'était pas jusqu'au bout. L'impérium consiste à aller jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail, parce que l'exécution regarde toujours le singulier. Tandis que quand je suis dans l'ordre des possibles, ça ne regarde pas du tout le singulier. Alors, c'est ça qui m'empêche d'être appliqué. Bon, je vois donc, et ça c'est très important de bien le voir, hein, je vous donne ici une analyse philosophique, croyez bien que c'est pas a priori, hein, c'est à partir de l'amour d'amitié, si nous l'analysons bien, et à partir tout simplement de ce que représente en moi l'acte volontaire, que je vois qu'il y a ces quatre grands moments, et chaque fois il y a possibilité que ces moments ne soient pas liés d'une façon nécessaire. Il y a un lien entre ces quatre moments pour arriver à l'exécution. Et qu'est-ce qui s'infiltre entre deux ? L'imaginaire. L'imaginaire, c'est pour ça qu'on dit que l'imaginaire est la folle biologie. On comprend très très bien ça. On comprend très bien comment l'imaginaire empêche. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes lieux d'empêchement, vous voyez ? D'un côté, ça empêche l'intelligence, d'autre côté, ça peut empêcher la volonté. L'imaginaire est très fort en nous. Hein. Alors, parce que cet imaginaire joue, il faut que nous luttions. Ah. Donc, l'acte moral se réalise dans la lutte. Au point de vue théologique, hein, nota bene, au point de vue théologique, au point de vue de la foi, du croyant, je sais que la lutte provient non seulement de l'imaginaire, mais qu'elle provient des trois concupiscences qui sont en moi. Ces trois concupiscences viennent empêcher cela. Au point de vue philosophie, je ne peux pas parler de ces trois concupiscences. On parle au Saint Jean, conséquences du péché qui sont en moi. Je ne peux pas. Mais je vois des excroissances extraordinaires de l'imagination. C'est très curieux, vous voyez, que ce que la foi dit en profondeur, j'en vois les répercussions au point de vue imaginaire, philosophique. Comment se fait-il que, de fait, on a tellement de peine à être appliqué dès que vous êtes un peu fatigué, quoi. On a une peine énorme. Comment se fait-il que si facilement on est velléitaire alors qu'on avait promis qu'un seul comment ? L'imaginaire est très fort. Pourquoi l'imaginaire est-il si fort ? Nous dirions-nous, hein ? à cause des trois concomissants et à cause de la complexité de l'être humain. Alors, la complexité de l'être humain est naturelle. Mais cette complexité a augmenté quand saint Paul dit « Je sens en moi deux hommes ». Le philosophe ne dit pas qu'il sent en lui deux hommes, parce qu'il ne voit pas les trois concupiscences. Le philosophe dit que l'être humain est l'être le plus complexe qu'il soit. Aristote le disait, saint Thomas l'a répété, et le père Teilhard le dit. Donc ça prouve que c'est vrai. C'est une complexité énorme. C'est l'être le plus complexe qui soit. Si c'est l'être le plus complexe qui soit, il a une grande peine à faire que toute cette complexité soit ordonnée vers l'unité. Or, cette complexité est ordonnée vers l'unité par l'intention de lui, par la fin. C'est la fin qui m'unifie, c'est pas mon amour. Mon amour m'unifie, mais radicalement, mais pas d'une manière suffisante. Toutes mes forces sont mobilisées par l'intention de vie, pas par mon amour spirituel. C'est très curieux. Évidemment, l'intention de vie ne peut exister que si l'amour spirituel, mais c'est l'intention de vie qui mobilise mes forces. C'est pour ça que si facilement je tombe dans le volontarisme, parce que je ne vois que l'intention de vie, je ne vois pas le fondement qui est l'amour spirituel. Là, je tombe dans le volontarisme. Il s'agit d'avoir la volonté, tout simplement. Oui, celui qui déclare, par exemple, une vocation, c'est une question de volonté. Non, c'est une question d'amour. Mais extérieurement, on dira, ah, c'est une question de volonté. Celui-là, il fait quelque chose dans sa vie parce qu'il y a une très grande volonté. Non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'un grand amour. Mais ce grand amour est aidé par une intention de vie. Et se concrétise dans une intention de vivre. C'est très délicat, ça, à bien voir ce passage entre les deux et de voir que l'amour spirituel fonde. Eh bien, de fait, cette complexité qui est en moi favorise toutes les fuites. Bien évident. Une maison très complexe favorise toutes les fuites. Quand il n'y a qu'un seul endroit à regarder, c'est facile. Mais quand il y en a des quantités, ah oui, il peut y avoir des fuites, les fuites imaginatives qui passent dans tous les sens. Une fois que j'ai pris conscience de cela, je comprends que je ne peux avoir un acte humain volontaire que dans la lutte. Je dois accepter la lutte. Accepter la lutte, c'est vouloir être victorieux. Hein? Puisque, enfin, on accepte la lutte que si on veut être victorieux. Autrement, c'est pas accepter la lutte. C'est s'avouer vaincu des points de départ. Un homme qui accepte la lutte, c'est un homme qui veut être victorieux. Victorieux de quoi? Victorieux de ses emprises imaginatives. C'est très vrai. C'est à l'égard de ses emprises imaginatives. C'est à partir de là que pousse en moi l'être humain qui veut être victorieux. Être victorieux, c'est avoir un but dans sa vie. On dira... Le but, c'est la fin. Avoir un but dans cette vie. On veut être victorieux, conquérir cette fin. Il s'agit de la conquérir. C'est là où je dis l'intention de vie mobilise toutes mes forces. Une mobilisation générale par l'intention de vie. Où toutes mes forces sont mobilisées en vue de cette victoire, c'est-à-dire atteindre ma fin. Et c'est ça le seul but de même. Évidemment, il s'agit de bien choisir ma fin. Ça, on verra progressivement quelles sont nos véritables fins. Ici, je pars de l'expérience de l'amour d'amitié, eh bien, le bien spirituel d'une personne est une véritable fin, parce que c'est un véritable amour. Conquérir le cœur d'un homme, y être conquis par le cœur d'un homme, c'est établir un lien spirituel si fort dans l'amour d'amitié, qui fait qu'à partir de là, j'atteins véritablement ma fin. J'atteins une fin, qui est une fin, qui a sa noblesse et sa grandeur. Donc il s'agit de lutter intérieurement. Ce sont des luttes intérieures. On pourra parler ensuite des luttes extérieures. Mais il faut d'abord comprendre que les luttes sont au-dedans de nous-mêmes. Il y a au-dedans de nous-mêmes quelque chose de très mystérieux. Très, très curieux. Je parle pour la philosophie. Au plan théologique, je comprendrai tout de suite. Au point philosophique, je dis, il y a en moi quelque chose de très curieux, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui veut toujours le plus facile. Et qui opte toujours pour le plus facile. La spiritualité de la planche. Dégringoler une fleur, hein, tout simplement. Il y a toujours en moi une poussée vers ce point de vue le plus possible. J'ai de la peine à me tenir toujours debout. C'est-à-dire de chercher mon véritable bien. Il y a une lutte interne. Et puis il y a une lutte externe. À la lutte externe, elle provient, on ne sait pas comment ça se fait, qu'il y a certains biens qui me séduisent et qui sont de faux biens. Il y a certains moyens qui m'apparaissent plus faciles, plus immédiates, qui me séduisent. Au fond, il y a des propagandes. Des propagandes, ça joue ça, dans un milieu humain. Et plus on avance, plus les propagandes jouent. Les séductions, les persuasions. Il y a des faux amis. Il y a des amis qui soi-disant, me veulent mon bien, mais qui, en réalité, me font perdre du temps et beaucoup de temps. Donc, il y a un ennemi extérieur, ou des ennemis extérieurs, et il y a au-dedans de moi aussi quelque chose qui m'attire vers le plus facile. Il y aura donc une lutte. Et dans cette lutte, il faudra progressivement m'affermir. Et progressivement m'affermir, c'est acquérir ce qu'on appelle d'une manière traditionnelle en philosophie, les vertus. L'acquisition des vertus est nécessaire à cause de la lutte. Je dis ça en premier lieu. On se demandera si l'acquisition des vertus serait nécessaire ou si elle n'est pas de lutte. C'est pas beaucoup la peine de poser la question, étant donné que nous savons que les luttes existent. Et c'est suffisant. Les luttes existent, il faut s'aguerrir. Et la vie humaine implique cette lutte constante. Celui qui n'accepte pas de lutter, il dégringole. Et l'imaginaire prend de plus en plus de place.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.